Une heure moins le quart, on retrouve Lucille Como à Avignon pour la grande table d'été.
Merci Antoine et à demain. Est installée toute cette semaine entre les murs frais de la cour du musée Calvet à Avignon où le festival continue. Aux alentours de 13h30, place sera faite à Joël Gaillot qui s'entretient tous les jours avec un artiste du off. Aujourd'hui, ce sera Pauline Bayle. Puis, nous tirerons le portrait d'Anne-Cécile Van Dalen que beaucoup comme moi ont découvert, je pense, cet été. La pièce qu'elle crée s'appelle Tristesse, une pièce politique qui commence comme un polar nordique. Mais tout de suite, on accueille deux metteurs en scène qui probablement sont ceux qui marqueront le plus cette édition. D'abord parce qu'ils sont nouveaux et puis parce que leur création fait parler d'elles bien avant qu'on ne les voit. Julien Gosselin et Jean Bellorini. À côté de vous, Jean Bellorini, Camille de la Guillonnière, vous jouez dans le spectacle de Jean Bellorini et vous l'avez également assisté pour l'adaptation. Si on vous a réunis aujourd'hui, c'est que vous avez tous les deux choisi de mettre en scène deux monstres de la littérature. Jean Bellorini, pour vous, c'est le dernier roman de Dostoïevski et ça donne Karamazov à la carrière Bourbon, spectacle en 5h30. Julien Gosselin, c'est 2666, le roman de Roberto Bolaño, aussi son dernier roman d'ailleurs, 11h30 à la Fabrica. Alors, première question en forme de détour, est-ce que vous-même, tous les trois, vous avez fait en tant que spectateur l'expérience de ce type de pièce très longue, Jean Bellorini?
Bonjour, moi j'ai évidemment des souvenirs de Lev Dodin, par exemple, de Frères et Sœurs, de Vie et Destin, de grandes traversées comme ça qui m'ont marqué en tant que spectateur, oui, certes.
Julien Gosselin.
Oui, moi ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, Lev Dodin justement, Vie et Destin, typiquement. Je me souviens aussi de Mouawad dans La Cour d'honneur, de beaucoup d'autres formats, généralement pas forcément d'ailleurs français, plutôt venant d'Allemagne, de Pologne ou de Russie. Mais oui, ça m'est souvent arrivé.
Vous avez repensé à votre ressenti en tant que spectateur à ce moment-là, quand vous avez créé la pièce ?
Oui, mais pas que. J'ai surtout pensé à mon ressenti de lecteur par rapport à l'œuvre que j'adaptais. Et mon ressenti de lecteur correspondait à un ressenti de longueur en tant que spectateur.
Camille, je veux forcément confondre les noms. Camille de la Guillonnière.
Moi, j'ai les souvenirs de ces épopées de Mouchkine, où le temps aurait encore pu durer. J'aurais été ravi.
Olivier Py, qui était à ce micro il y a deux jours, parlait de la première pièce qu'il avait donnée dans le IN. C'était en 95, en tant que metteur en scène. C'était un cycle de près de 24 heures. Pour lui, c'était évident qu'il fallait commencer par une forme comme ça. Est-ce que pour vous, par exemple, Jean Bellorini, c'était aussi évident qu'il fallait commencer par une forme ample à Avignon ?
Je ne sais pas s'il fallait ou s'il ne fallait pas. Ce que je sais, c'est que le choc que ça procure dans le temps, sur la traversée physique des choses, transforme un spectateur en profondeur et que l'on a besoin de ça aujourd'hui pour se créer des repères sincères et profonds, plus que quelque chose que l'on a aimé ou pas aimé. On n'est pas dans ce rapport-là. On est dans le rapport physique et sensoriel au froid, au temps, à l'épreuve. Et effectivement, comme dans la lecture, où on a besoin de s'arrêter, de relire, de recomprendre, de déconstruire, de détruire pour mieux l'absorber.
Julien Gosselin.
Oui, je ne sais pas si j'avais besoin de faire ça pour Avignon non plus. Il se trouve que j'avais juste besoin de faire ça. L'expérience de la durée était forcément une des nécessités qui ont présidé au fait que je monte ce texte-là. C'est plutôt, une forme, un moment aussi, à mon endroit aussi, moi, de metteur en scène, de dépassement un petit peu de mes habitudes de metteur en scène. C'est aussi à cet endroit-là que ça s'est décidé comment, à un endroit, j'allais pouvoir essayer de trouver d'autres façons de faire du théâtre, comment j'allais pouvoir me déplacer, comment j'allais pouvoir sortir de mes petites habitudes. Et l'expérience de la durée fait qu'on est obligé à un moment de sortir de ses habitudes.
Nous, concrètement, en commençant le travail sur Karamazov, on ne savait pas, avec la troupe, sur quoi on allait se poser. Et il y avait évidemment la question du parricide, il y a la question métaphysique critique de notre monde, mais il y avait les enfants, la place des enfants dans le monde, de l'innocence. Et il a été question de faire un spectacle très court. C'est pour dire que c'est pas forcément la durée. C'était cette œuvre-là et comment elle allait nous fabriquer. C'est pas qu'est-ce que je vais faire de Karamazov, mais qu'est-ce que Karamazov va faire de nous, en fait.
Alors la gageure pour moi, ça va être d'essayer de décrire rapidement vos spectacles. D'abord, il faut dire que vous ne pratiquez pas le même théâtre, mais il y a quand même quelques points communs, notamment dans la scénographie. Alors Karamazov, c'est dans la carrière Boulbon, c'est donc en extérieur, au milieu de parois monumentales naturelles de pierre. Il y a un plateau qui est très long, sur lequel circulent grâce à un système de rails des petits modules vitrés dans lesquels vos personnages se débattent. En fond de scène, il y a une maison qui s'ouvre parfois pour laisser entendre des musiciens ou pour laisser place à un décor. D'emblée, ce qui frappe, Jean Bellorini, c'est l'utilisation que vous faites de la carrière. Vous ne l'utilisez pas dans le même sens que ce que j'avais pu voir précédemment.
J'avais envie vraiment que les personnages soient écrasés par cette falaise. Et donc, en pivotant le gradin, on se retrouve face à la partie la plus raide et la plus droite. Et donc, on a pu coller le gradin le plus proche possible. Finalement, la scène est très peu profonde. Elle est très ouverte, mais très peu profonde. Et les personnages ont réellement l'impression d'être trop petits face au monde. C'est que des êtres qui sont rétrécis en eux-mêmes, qui ont l'impression que leur âme déborde parce que l'on est trop... On n'est pas à la hauteur de ce que l'on porte et ce que l'on a en nous. Et finalement, c'est ce rapport à la nature extrêmement puissant où on se sent tout petit.
Vous, Julien Gosselin, vous utilisez aussi des cubes en verre. C'est peut-être le rapport entre vos deux scénographies. Ce sont des modules, pour le coup, qui ne roulent pas vraiment, mais qui s'écartent et qui recomposent un peu à l'envi des décors. Au-dessus, il y a un grand écran. Une grande partie de l'action est filmée sur scène. C'est le cas, d'ailleurs, cette année, dans au moins 3 spectacles du festival. Est-ce que, dès le départ, c'était une évidence pour vous, la présence de la caméra? Je sais que vous l'avez déjà pratiquée. Et surtout, est-ce que ça a été une aide, peut-être un outil qui vous a aidé dans l'adaptation du roman?
La présence de la caméra était une évidence, mais de la même manière que la présence de la lumière était une évidence, ou la présence du son, ou même la présence des acteurs était une évidence. Par contre, son usage aussi fort dans le spectacle ne l'était pas. Je ne pensais pas du tout... Là, on peut dire qu'il y a 2 parties du spectacle qui sont quasi intégralement filmées, et c'est quelque chose, une expérience que je ne pensais pas du tout tenter au départ. Il se trouve qu'à un moment, quand on travaille sur des formes romanesques, comme sont la deuxième et la troisième partie, d'ailleurs pour des raisons différentes du spectacle, la première parce que c'est une introspection très très forte, et que, disons que je suis un metteur en scène pour qui il est parfois difficile de trouver la zone d'introspection à l'intérieur du jeu type de l'acteur, et c'était la caméra me permettait d'aller à l'intérieur des pensées de l'acteur, enfin du personnage. Pour la troisième partie, quelque chose où à un moment le nombre de lieux se démultipliait, et à un moment les armes du théâtre ne me permettaient pas non plus de cette chose-là. Donc si vous voulez, la caméra a été une sorte à chaque fois d'aide énorme quand on se retrouvait face à certaines difficultés, et ont permis même de transformer à l'intérieur une chose de notre théâtre à nous, une chose que je n'aurais pas imaginé faisable. Donc quand on commence les répétitions, je sais que j'ai certaines armes à ma disposition, mais comment je vais les utiliser et à quel point je vais utiliser, ça je ne sais pas.
Jean Bellorini, je vous voyais sourire, ça a été à un moment donné une option que vous avez considérée, le film, ou pas du tout?
Non, j'ai jamais utilisé de vidéo dans mes spectacles. Là, il y a un petit clin d'œil à la toute fin, mais c'est quelques secondes. Et puis, c'était surtout pour l'utilisation de la falaise. Et on projette sur cette immense falaise quelque chose. On revendique plutôt l'imaginaire. L'introspection pour ces personnages, pour ces acteurs, font plutôt partie de l'imaginaire rencontré entre le spectateur et l'acteur que dans quelque chose que l'on montrerait différemment. Mais en même temps, c'est des questions qu'on se pose en permanence. Nous, la question plus forte a été comment on renouvelle l'écoute, comment on redonne à entendre différemment chaque séquence pour tenir en haleine. Au même titre que l'écriture, la construction presque comme un feuilleton, comme une saga, on a envie de connaître la suite, il s'agissait de renouveler les formes possibles d'écoute.
La première fois que Jean-Claude Pelletier lut Benno von Archimboldi, ce fut pendant les fêtes de Noël de 1980 à Paris, où il suivait des cours de littérature allemande à l'université. J'avais 19 ans.
Le livre en question était d'Arsonval. J'ignorais alors que ce roman faisait partie d'une trilogie avec Der Garten, Die Ledermaske.
Le jardin et le masque de cuir.
Oui, pardon. Mais cette ignorance, ce vide, cette incurie bibliographique ne permit en rien l'éblouissement et l'admiration que le roman provoqua en moi.
À partir de ce jour, ou de l'heure très avancée de la nuit, où il considéra comme achevée cette lecture inaugurale, il se convertit en un Archimboldien enthousiaste et commença sa recherche d'autres œuvres de cet auteur. Alors, ce ne fut pas une tâche facile. Mettre la main sur des livres de Benno von Archimboldi dans les années 80 du XXe siècle était difficile. Dans les bibliothèques universitaires, il n'existait pratiquement aucune référence sur Archimboldi. Tes professeurs n'avaient pas entendu parler de lui.
L'un d'eux m'avait dit que ce nom lui rappelait quelque chose. Au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que ce que cela rappelait à mes professeurs, c'était le nom du pape italien Archimboldo, sur qui d'ailleurs son ignorance s'étendait également de façon olympienne.
Alors, 2666, c'est un roman de Roberto Bolaño qui est en cinq parties vraiment très séparées les unes des autres. Vous, vous suivez cette structure-là? Ça s'est imposé dès le début, Julien Gosselin?
Ouais, c'est un peu ma façon de travailler. J'adapte les textes. Disons que, vous voyez, j'essaie de ne pas faire d'après. Je sais que sur le programme du Festival d'Avignon, il y a écrit d'après 2666, mais je préfère d'après Roberto Bolaño, je préfère deux Roberto Bolaño. J'essaie vraiment de suivre la structure narrative. Il ne s'agit pas pour moi d'être dans le respect ou la fidélité, j'en ai un peu rien à faire de ça, ce n'est pas vraiment mon problème de respecter l'auteur. Il se trouve juste que une des choses qui m'intéresse le plus, c'est la structure. Et que mon adaptation, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de mettre en avant cette structure et même de présenter la structure au spectateur pour que lui puisse se faire une idée de la structure même matérielle du livre. Donc oui, j'ai suivi ces cinq parties-là.
D'où les titres aussi qui sont très présents et des effets de structure sonore extrêmement forts. Ces cinq parties, elles sont assez disparates. Donc là, on entendait un extrait de la première. La première, c'est l'histoire d'universitaires européens qui cherchent un auteur allemand mythique, Archimboldi. Puis avec la seconde, on entre dans l'histoire d'un professeur de philosophie au Mexique qui devient fou. On ne sait pas vraiment, on ne trouve pas tout de suite le rapport. Il y a cette histoire de meurtre en série dans une ville au nord du pays qui reste assez mystérieuse. Est-ce que cette grande disparité-là, ça a été un obstacle dans votre manière de considérer l'ensemble de la pièce, ou est-ce qu'au contraire ça a été plutôt une chance justement sur la durée, Julien Gosselin?
C'est les deux, mais c'est quand même plutôt une chance parce que je vous parlais tout à l'heure du fait de devoir renouveler à un moment le type de théâtre que je fais ou que j'ai l'habitude de faire avec les acteurs. Ça a été une chance pour ça. Et puis aussi à un moment de pouvoir, si vous voulez, entre la première partie qui, on va dire, une partie, on pourrait dire, plus bourgeoise, plus intime, avec des relations de couple, des histoires d'amour, et la dernière partie qui est une forme de grand récit épique, moi je me disais, il va falloir trouver des solutions, et cette chose-là est forcément extrêmement excitante.
Jean Bellorini, Dostoïevski a fait paraître d'abord les frères Karamazov en feuilleton dans un journal qui s'appelait Le Messager russe. Est-ce que c'est une dimension que vous avez considérée? Camille de la Guillonnière aussi peut-être peut répondre, vu que vous avez travaillé sur l'adaptation.
Ça participe au rythme très fort du spectacle, séquencé comme ça. Et on est obligé de le considérer. Ensuite, ça permet aussi d'identifier très fort ce qui parle à l'acteur. Ce rythme, mine de rien, ce qui allume l'acteur, ça va être ça qui va orienter très fort l'adaptation et les choix.
Vous dites que c'est un roman à tiroir, c'est un genre, le roman à tiroir. Qu'est-ce que ça a pu déterminer dans la scénographie physiquement? Qu'est-ce que vous en avez fait de cette appellation, Jean Bellorini?
Pour le coup, on essaie de rester fidèle à la structure aussi. Et dans la structure, effectivement, on retrouve, il y a des résonances. C'est en ça que cette œuvre, elle est polyphonique. On retrouve des motifs, on retrouve même des mots qui reviennent. Tout se transforme et tout, en même temps, est présent et en mouvement. Et effectivement, il y avait cette envie scénographique de rétrécir les espaces, qu'ils se sont enfermés dans des espaces d'1m50 par 1m50, alors qu'on est à Boulbon. Mais disons que rythmiquement, on reste dans le chaos qu'est les frères Karamazov. On est en même temps chaotique et dans une tentative de clarté du récit. Mais les deux choix, enfin les deux, c'est un peu contradictoire, mais a été de tenter de rendre clair le récit et de suivre effectivement comme une saga, comme quelque chose, comme un feuilleton, comme une chose simple à laquelle on s'intéresse avec effectivement des histoires d'amour, des conflits intérieurs, le parricide, le meurtre, presque un roman policier de base, et l'enquête. Et puis en même temps, ces troubles, ces moments de vertige pour chaque personnage, d'interrogation du monde, plus ou moins critique, plus ou moins avec des réponses qui ne sont jamais claires quand même. Donc voilà, cette dichotomie entre clarté et vertige, trouble, entre trouble, chaos, comme un peu à l'image quand même de notre monde, où on tente des fois la clarté et malheureusement des fois on va vers le rétrécissement, et la rapidité de pensée est dangereuse, et en même temps, on a envie de s'expliquer notre monde un peu mieux pour l'assumer, le dépasser, le transformer. Voilà, c'est un peu là-dedans qu'on était.
Julien Gosselin, je crois que vous aviez entendu parler du roman de Bolaño dans un article de journal qui titrait « Le premier grand roman du XXIe siècle ». Qu'est-ce que ce texte, justement, a à dire sur le XXIe siècle?
Vous savez, une des manières d'expliquer le titre de 1666, il y a le 666 qui est le signe du diable, du mal, et puis 2000 comme ce 21e siècle en fait, qui serait pour Bolaño une forme qui supporterait encore comme un cimetière les atrocités commises forcément pendant la Seconde Guerre mondiale, mais même encore plus loin, comme une sorte de cimetière archaïque de la violence qui persisterait, qui prendrait ses nouvelles formes avec la barbarie moderne que sont les viols et les assassinats de femmes à Santa Teresa, enfin à Ciudad Juárez, qui est la véritable ville à la frontière du Mexique et des États-Unis. Donc voilà.
Votre précédent travail, c'était sur les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Bon, c'est pas du tout la même chose hein, en termes de littérature, mais est-ce que de ce point de vue, le point de vue de parler de notre siècle, il y a quelque chose de commun entre les deux textes, peut-être ?
Bah oui. Bah, c'est de la littérature ultra-contemporaine. C'est des écrivains qui poétiquement font des tentatives ultra-contemporaines, osent des choses. Chez Houellebecq, c'était l'incursion à un moment de la poésie pure, l'incursion de la sociologie, l'incursion de la pensée, d'une pensée de la sexualité aujourd'hui à l'intérieur de sa littérature. Là, chez Bolaño, c'est une tentative à un moment d'exploser complètement tous les codes littéraires, que sont ceux du roman, on va dire, latino-américain le plus classique, et même ceux du roman européen. Donc ça, poétiquement, c'est vraiment de la pure contemporanéité, et vraiment même des choix artistiques extrêmement radicaux de leur part. Et puis, on pourrait dire thématiquement, politiquement, je vous parlais de la sexualité chez Houellebecq, de la misère sexuelle, de la question de mai 68. Là, la question, à un moment, de la présence de la violence et même de l'utilité de la littérature dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des thématiques qui sont extrêmement contemporaines et nécessaires.
Quand vous l'avez lu la première fois, vous avez déjà pensé à le voir sur scène
En fait, j'ai cette maladie de metteur en scène, vous savez, qui fait que quand on lit n'importe quoi, en fait, on se dit je vais le monter. Ce qui empêche d'ailleurs de lire, parce que quand on se dit je vais pas le monter, en fait, on finit pas les livres. En tout cas, moi, j'ai un problème avec ça.
Jean Bellorini, vous partagez ce problème ?
Souvent, mais pas que quand on lit, quand on regarde, quand on vit, quand on éprouve, on est façonné en permanence. Mais bon, ça, c'est pas un métier, en fait. On est comme ça. Je l'explique pas trop. Mais oui, c'est une obsession.
Julien Gosselin, un auteur que vous avez laissé tomber pour cette raison ?
C'est dur, ça.
Je vous la reposerai plus tard.
Si je peux vous dire, par exemple, il n'y a pas longtemps, je voulais lire Tennessee Williams. Et bon, je me suis dit, c'est vraiment pas possible de faire ça au théâtre, alors j'ai arrêté. Mais c'est sûrement génial, Tennessee Williams.
Bolaño est un auteur qui est mort en 2003 à 50 ans. Il est encore assez peu connu en France de ce point de vue. L'histoire du grand auteur méconnu qui ouvre le roman et votre pièce, ce fameux Archimboldi que recherchent 4 universitaires, sonne singulièrement. Comment vous l'avez vu, vous, ce personnage ? Est-ce que c'est Bolaño d'une certaine manière ?
Ouais,
est-ce que c'est un avatar de l'auteur ?
J'essaye pas de. C'est drôle parce que dans Les particules élémentaires, on avait intégré un personnage qui était une sorte de double de Houellebecq. Et là, j'ai essayé de pas trop penser en tant que double de Bolaño, même si ce qui est le plus étonnant, c'est que de manière presque magique, il y a d'autres liens encore qui se font autour de la figure de Bolaño dans le livre et depuis sa mort, sur le fait justement, vous le disiez, qu'il est relativement méconnu en France et que cet Archimboldi soit une sorte de, comme disent les critiques à un moment, un caprice d'universitaire. Forcément, il y a un lien très fort, même si il y a quelque chose à l'intérieur du livre de Bolaño où à un moment cet écrivain est à la fois même la figure de tous les écrivains et la figure de toute la littérature. Bolaño utilise l'image du géant, il n'arrête pas de parler d'un géant et c'est finalement encore beaucoup plus puissant que lui. Mais Bolaño de toute façon s'intègre tout le temps dans ses livres. Dans Les Détectives Sauvages, il y a un personnage qui s'appelle Bolaño et c'est Bolaño à chaque fois, et il utilise tout le temps cette figure-là, il a plaisir à le faire.
Vous, Jean Bellorini, vous aviez monté il y a quelques années une adaptation, entre autres, des Misérables de Victor Hugo sous le nom Tempête sous un crâne. Est-ce que vous considérez votre travail sur Karamazov comme une continuation de ce travail-là sur les grands romans du 19e siècle, ou est-ce que ça n'a rien à voir ?
On est toujours dans la suite de ce que l'on a fait. Il y a eu Tempête sous un crâne, il y a eu Rabelais, il y a eu même La bonne âme de Brecht. Il y a effectivement quand même des questions de fond qui reviennent, enfin qui se répondent, qui résonnent. Cette question de Dieu, de croyance, même plus de croyance que de religion d'ailleurs, où on essaie de pousser un peu plus loin que Brecht. Après, il y a franchement plus un travail de troupe, et ce rapport à la littérature permet d'investir les acteurs à l'endroit de l'autorité du spectacle. Et ça, c'était important, en l'occurrence pour nous, de revenir à une forme plus libre, même si c'est les mots de Dostoïevski, c'est André Markowitz, mais
qui est
le traducteur. Mais les acteurs se sentent auteurs quand même de tout ça.
Justement, comment ça se passe concrètement? Vous vous mettez à table, vous avez le bouquin sous les yeux. Comment vous faites avec la troupe?
On arrive avec une première sélection monstrueuse, très très longue. Et là, il y a assez rapidement des évidences intellectuelles d'acteurs. Et puis, en fonction de ces évidences, on retravaille un montage. On repropose à chaque période de répétition un nouveau montage. Et même dans cette fois-là, sur Karamazov, il y a vraiment eu une dernière étape de construction du montage qui a été très, très, très fortement faite par les acteurs, qui ont tout à fait dans la dernière partie, pour raconter leur fil, se sont investis vraiment, eux, dans la construction.
Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, une évidence intellectuelle d'acteurs? Qu'est-ce qui a été évident pour vous, par exemple? Quel passage ou quelle manière de faire, quelle manière d'écrire?
Mais comme souvent dans le travail de Jean, c'est assez sensoriel. C'est pourquoi cette voix, tout d'un coup, correspond à ce moment de l'écriture. Et ça, c'est un mystère, mais il se trouve que là, quand tel acteur dit telle chose, ça vous donne des frissons. Et puis après, toi, t'essayes derrière et ça fait rien du tout. Bon, alors du coup, vaut mieux que ce soit l'autre.
Julien Gosselin, vous travaillez aussi en troupe. Est-ce que ça fait écho à votre manière de travailler?
Oui et non, parce que en même temps, je travaille beaucoup tout seul. D'abord, là, par exemple, j'ai adapté le texte. On tournait les particules élémentaires pendant un an, et je prenais une loge à chaque fois dans les théâtres avec un ordinateur, et j'adaptais le texte tout seul. Généralement, je fonctionne d'une manière assez simple. J'essaye de garder le fil fictionnel, on va dire les éléments qui sont nécessaires au récit. Et puis à côté, j'ai une sorte de boîte où il y a tous les trucs que j'aime. Alors ça peut être des choses qui poétiquement sont d'un niveau extrêmement élevé, ou qui à un moment racontent une chose, on va dire une digression dans l'histoire, qui évidemment serait, on va dire, inutile au fil fictionnel global, mais qui me paraît nécessaire dans ma tentative de faire du théâtre. Et avec tout ça, il y a trop aussi, comme vous, il y a beaucoup trop. Et on lit avec les acteurs, c'est assez long et pénible généralement, on lisait pendant la tournée, mais ça fait des lectures, vous voyez, pour une partie qui finalement fait 1h40, ça fait 8 heures de lecture, alors que tout le monde en a marre et personne n'en a plus rien à faire à la fin, sauf moi. Et une fois qu'on a fait tout ça, j'essaye de couper, mais généralement, je coupe beaucoup, enfin, je veux dire, on précise beaucoup pendant la répétition, et à un moment, même parfois, l'adaptation est complètement balayée par quelque chose qui se passe au plateau et qui doit être remise en question.
Par exemple ?
Dans la deuxième partie du spectacle, je peux vous dire, dedans il y avait deux longs cours d'université qui traitaient de la télépathie. Et c'est une thématique que je voulais vraiment très fort traiter dans le spectacle. Je pense qu'elle y est parce qu'en creux, elle est présente dans quasiment toutes les parties, cette question à un moment de soit concrètement de la télépathie, soit des gens qui sentent les pensées des autres, soit à un moment même la question de la littérature qui est vue comme une télépathie aussi. Donc c'était deux longs cours aux magistraux sur la télépathie, extrêmement complexes, vraiment bolognesque pour le coup, vraiment profond et lourd, et je les avais mis in extenso et je me disais on va fracasser le public avec ça va être bien, voilà. Et puis bon, là le fracassage était un peu trop fort, et à un moment on a vraiment, maintenant ça fait 3 lignes, mais je pense que ces 3 lignes sont beaucoup plus fortes que ces 5 pages.
Jean Bellorini, il y a des choses que vous avez dû sacrifier, que vous regrettez peut-être dans le texte de Dostoïevski?
Plein, notamment des passages sur les enfants, qui étaient le démarrage de la raison d'être.
Parce que quand on entre dans la carrière Boulbon, il y a un enfant qui circule, qui déambule tout doucement sur la scène.
C'est les traces de tout ça. C'est pour moi l'ouverture de ce que propose Dostoïevski, cette réinvention d'un monde au-delà du capitalisme ou du socialisme, voilà, quelque chose à inventer de l'ordre de l'inconnu, donc de l'ordre du poème et de l'innocence. Voilà, donc il en reste des traces. Maintenant, moi le point d'orgue, c'était quand même le Grand Inquisiteur, et on a aussi, par rapport à l'œuvre, réduit beaucoup, mais on affirme la nécessité du chaos physique que cela procure, et donc de la longueur aussi, de l'action, le côté actif du spectateur et du lecteur nécessaire à l'incubation du poème.
Qu'as-tu donc à me regarder? Elle se regarde où, sans jamais rien me dire? Tout ce que je te dis, tu le sais déjà, ou alors je ne sais pas à qui je parle. Veux-tu que ce soit moi, précisément, qui te révèle notre mystère? Eh bien, notre mystère, le voilà. Nous ne sommes pas avec toi, mais avec lui. Depuis longtemps, nous ne sommes plus avec toi, mais avec lui. Nous avons pris de lui ce que toi, tu avais refusé. Ce troisième don. Il nous a donné le glaive des Césars et nous nous sommes proclamés maîtres de la terre. Roi unique. Pourquoi as-tu refusé ce dernier don? En acceptant ce troisième conseil, tu aurais pu toi-même, il y a 15 siècles, réaliser le royaume universel. Tu aurais alors accompli tout ce que l'homme cherche sur terre. Nous avons dû corriger ton œuvre et nous l'avons fondée sur le mystère, le miracle et l'autorité.
Le poème du grand inquisiteur dont vous parliez, c'est presque un livre dans le livre. Ça a été extrêmement commenté, ça a été mis en scène. Je sais que vous avez vu justement Chéreau dire ce texte en 2008. Qu'est-ce qui vous avait marqué dans cette interprétation-là, Jean Bellorini?
C'était une lecture et c'était la « Je découvrais » de Dostoïevski. C'est suite à quoi je me suis plongé vraiment dans la lecture du roman et de l'œuvre. C'est cette dimension palpable, métaphysique, et ce rapport à la justice divine et la justice des hommes. Voilà, on se situe vraiment grâce à ce récit au XVe siècle. Ça nous rend profondément contemporains face à la question de Dieu et à la question de la nécessité d'un Dieu, la nécessité d'un sens. Mais au-delà, finalement, la religion, c'est ce qui nous relie dans son terme étymologique. Et pour moi, on a besoin de liens, on a besoin de liants. Et comment s'invente-t-on ces cadres pour coexister? Voilà, c'est le cœur, c'est le livre dans le livre, effectivement. C'est ce qui a sous-tendu toute la raison d'être, qui est en même temps critique et en même temps avec une notion d'idéal inconnu et encore impalpable.
Il faut peut-être en donner le propos de ce livre. Donc c'est Ivan qui raconte à son frère, Ivan le frère philosophe, qui raconte à Alyosha comment Jésus, enfin une parabole, comment Jésus est revenu sur Terre 15 siècles, on entendait 15 siècles après, et se retrouve face au grand inquisiteur en Espagne. Camille de la Guillonnière.
Et ce grand inquisiteur accuse le Christ d'avoir confié une mission impossible à l'homme, c'est-à-dire que avec cette liberté qu'il lui a laissée, il peut pas être bon, c'est pas possible. Et voilà, il a tout ça sur les épaules et cet inquisiteur de 90 ans va déverser toute sa haine contre le Christ à ce moment-là et va lui proposer une nouvelle solution. Voilà lui, qu'est-ce qu'il propose? C'est l'écho que peut-être peut avoir sur l'ensemble du roman, c'est aussi cet Alyosha, qui est le fil rouge aussi, qui au début du roman est dans une communauté religieuse, finalement il en sort pour créer une autre communauté spirituelle qui n'est pas enfermée dans la religion. C'est cette communauté qui forme à la fin avec tous ses enfants, avec la génération à venir. Et ce choix que fait Alyosha, ce n'est pas celui du grand inquisiteur, mais c'est quand même celui de ses petits-enfants, cet avenir-là.
Est-ce que pour vous, Julien Gossien, il y avait un centre, un cœur de l'œuvre de Bolaño autour duquel vous vouliez tourner?
Oui, c'est la quatrième partie du livre qui s'appelle « La partie des crimes ». C'est, me semble-t-il, forcément le cœur de l'œuvre parce que c'est une... En gros, je divulgâche un peu, hein, mais je spoil, mais c'est pas très grave, on s'en fout. La quatrième partie décrit par le menu, en fait, l'état des corps des jeunes ouvrières qui sont retrouvées violées et tuées généralement dans le désert, dans cette ville à la frontière du Mexique et des États-Unis. Et il y en a, je crois, à peu près 200 dans le livre, qu'on a quasiment toutes gardées. Et forcément, c'est à un moment le cœur pur de la violence à l'intérieur de l'œuvre. C'est on sent les battements de cette violence qui irradie tout l'œuvre. Alors, c'était vraiment l'endroit. Et puis, si vous voulez, il y a un endroit, c'est un endroit tellement d'extrémité littéraire que moi, c'était le cœur aussi du travail de mise en scène. C'était même, je peux vous dire, la seule... Généralement, je n'ai pas d'image de ce qu'on va faire avant qu'on soit au plateau. Je ne sais pas comment on va travailler. Et c'était peut-être le seul endroit du spectacle où, bien avant même qu'on entre en répétition, je me suis dit, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si ça va être intéressant, mais on va faire ça. Alors ça, je peux pas dire, j'ai pas très envie de dire ce que c'est, parce que je préfère que le spectateur le découvre, même s'il n'y a pas de suspense là-dedans, mais c'est juste, j'ai envie de plonger le spectateur dans une expérience extrême qui, me semble-t-il, est plus proche d'une sorte de performance d'art contemporain à un moment que de théâtre, on pourrait dire. Et je voulais aller... loin, comme Bolaño va loin à l'intérieur de ça. Donc ouais, c'est ça le cœur de l'œuvre.
Vous disiez pas de suspense, mais vous ménagez clairement des effets de suspense. Moi, j'ai pensé quand même à plusieurs reprises à la série télévisée, pas forcément d'ailleurs à cause de la forme, mais beaucoup à cause du rythme et du ton. Je pense notamment au début de la troisième partie qui se passe dans la rédaction d'un journal new-yorkais. Ça va extrêmement vite. Bon, déjà, ça, c'est quand même vraiment très, très typique de la télévision. Et surtout, je me suis dit, on dirait de la traduction depuis l'anglais.
Ouais, c'est marrant, hein. Mais j'entends ce que vous dites. C'est parce que aussi, je pense qu'il y a là-dedans vraiment, on a fait. Si vous voulez, c'est la troisième partie. Elle commence vraiment aux États-Unis et il fallait vraiment qu'elle soit américaine. Il fallait que ce soit très identifiable parce qu'après, voilà, il y a deux trois moments comme ça où il faut que le spectateur puisse poser son œil sur une chose, on va dire connue, parce qu'il y a tellement de moments où on l'emmène dans des choses qui me semblent inconnues, il faut quand même qu'on respecte ça dans la structure. Non, ce qui est intéressant avec Bolaño, c'est, si vous voulez, la littérature n'a pas de fin pour Bolaño. Donc, en fait, il y a une destruction du suspense au bout d'un moment. Il utilise la question du suspense. Si vous voulez, c'est comme, on parle, quand les gens voient le spectacle, ils parlent pas mal de Babel, ce film d'Iñárritu, mais en fait, c'est comme une sorte de Babel détruit, quoi. Bolaño fait croire au spectateur que le suspense est une donnée intéressante de la littérature, et au bout d'un moment, il lui dit non, c'est la littérature qui est intéressante dans la littérature, c'est pas le suspense.
Vous avez tous les deux travaillé du coup sur des textes traduits. Jean Bellorini, je sais que vous avez collaboré avec André Markowitz, que vous citiez tout à l'heure, qui est le nouveau grand traducteur de Dostoïevski et qui a véritablement changé la manière dont on lit aujourd'hui Dostoïevski en France. De quelle nature a été sa collaboration ?
On s'est rencontrés avant de commencer le travail avec Camille, juste pour parler de l'œuvre et son ressenti et sa manière de lui, voilà, de rendre rythmique, palpable, vivant la matière textuelle. Il nous a laissé extrêmement libres. On s'est revus. Ben, on a travaillé 3 jours une première fois, et puis après, il est revenu au tout début des répétitions avec les acteurs pour donner, pareil, quelques clés. Il a notamment beaucoup parlé de la tentation, du scandale. Et je ne savais pas, et nous ne savions pas, je crois, comment nous allions s'influencer les uns les autres. Et il y a eu une liberté et un respect du travail de l'un comme du travail de l'autre. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix d'utiliser exactement les mots, la virgule près de André. Et lui, en fait, n'est finalement parvenu en répétition alors que la porte était complètement ouverte. Et il était là le soir de la première. Et je crois qu'il était assez heureux. Même si, voilà, le spectacle est en train d'advenir. On sait que ces premières prises de parole sont les moments où tout ça se cristallise, où tout ça... la naissance pour un spectacle est très importante. Et la naissance sous les étoiles... particulier, transforme un peu les choses, c'est-à-dire qu'on assume de maîtriser le rythme, la musique, mais on ne maîtrise ni la température, ni le ciel, ni le vent dans les arbres, et ça modifie chaque microseconde du spectacle. Donc pour moi, ça nourrit, ça participe d'une magie, mais et en même temps, il y a un deuil à faire d'une conscience de la tenue de l'ensemble. Mais au même titre, finalement, qu'on passe sa vie à chercher la liberté et qu'en fait on se rende compte que c'est ce qui nous apporte le plus de souffrance, c'est ce que raconte Karamazov. Bon, bah là, en tant que metteur en scène, on passe son temps à chercher la maîtrise et en fait on doit accepter l'inconscience et ce qui nous dépasse.
Alors hier, il faisait un petit peu froid dans la carrière, donc quand on est arrivé, il y avait donc cet enfant qui marchait sur scène, et puis entre un comédien, c'est vous, Camille de la Guillonnière, qui est travestie, qui s'adresse directement au public pour le prévenir à la fois de la longueur du spectacle, et puis qu'il va faire froid, donc prenez bien des couvertures, et puis pour le pitcher, on pourrait dire, pourrait employer ce mot-là, et on rentre en fait dans la langue de Dostoïevski très 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 progressivement. Qu'est-ce qui rendait ce prologue-là, c'est ce glissement vers une langue de la quotidienneté, de voilà, la langue de Dostoïevski. Comment vous l'avez conçu ce début ?
Eh bien, sa conception a été très longue, si vous voulez. Au début, c'était un moment choral. On a appris ce texte tous ensemble. Et puis finalement, on est revenu à la nécessité d'un rapport direct où tout de suite les premiers mots sont modifiés par l'écoute et par la respiration de l'ensemble des spectateurs en face. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce rapport direct. C'est presque discussion, d'ailleurs. Je pose des questions, je demande aux gens s'ils suivent bien.
Il y a de la musique dans les deux spectacles, de la musique en direct, c'est aussi un des points communs, même si ce n'est pas du tout la même musique. Chez vous, Julien Gosselin, parfois ce sont des nappes qui accompagnent les dialogues et les récits, du coup on vient presque à les oublier puisqu'elles font vraiment partie des dialogues. Parfois ce sont des véritables sets d'électro très forts, je pense aux nombreuses scènes de discothèque de la troisième partie. Qu'est-ce que vous aviez demandé aux musiciens et surtout comment ils ont travaillé avec les acteurs? Est-ce que vos textes du coup ressemblaient peut-être davantage à des partitions qu'à des textes?
Non, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille tout en même temps. Donc, la lumière, la musique, la vidéo, tout est là dès le début du processus de répétition. C'est très difficile pour les musiciens de travailler avec moi. Alors, un avait l'habitude, l'autre, qui s'appelle Guillaume Bachelet, l'autre, Rémi Alexandre, est arrivé sur ce projet. Si vous voulez, je leur demande une immédiateté qui est, mais d'ailleurs à tous les corps de métier, on pourrait dire, du travail, une immédiateté qui est absolue, c'est-à-dire que si j'ai une idée, il faut qu'ils le fassent en 4 secondes. Les acteurs, c'est faisable généralement. En lumière, c'est un peu plus difficile, en vidéo encore plus, et peut-être en musique, alors il faut y aller tout de suite. Généralement, on travaille tout en même temps, ils ont très peu le temps de préparer les choses, tout se fait, et si vous voulez, c'est la correspondance à un moment exact, sensible, entre comment cette musique-là, ou cette tentative de musique fonctionne avec le jeu. Quelque chose se crée d'immédiat, qui en fait n'est pas là pour, on va dire, améliorer, sublimer, le jeu de l'acteur, mais qui en fait est exactement la même chose que le jeu de l'acteur. Il se trouve que là, on a commencé à l'avoir fait un peu plusieurs fois le spectacle, et du coup, en fait, le jeu de l'acteur se pose quasi systématiquement sur le même endroit de musique, et ça devient en fait exactement la même chose. Mais je mets pas l'art de l'acteur comme une sorte de chose première à l'intérieur du travail. Pour moi, je veux dire, ça a exactement autant de valeur que la musique, et les acteurs le savent.
Jean Bellorini.
Ça, c'est vraiment intrinsèque à mon travail, mais la musique fait partie de l'acte de création. Et ils sont évidemment là aussi le premier jour de répétition. Et je dis toujours que les acteurs chantent et les musiciens parlent, que le sens et l'essence se confondent et que ce que l'on entend musicalement est porteur de sens et ce que l'on comprend avec les mots, en fonction des timbres, en fonction, voilà, c'est ce que nous dit Parole Gelée Rabelais, ce que chacun, juste le timbre, juste le rythme, juste l'humain qui prononce nous raconte bien au-delà de ce que l'on comprend avec la tête. Et l'idée est vraiment, d'une part, d'assumer que la musique vient fédérer les cœurs des acteurs et des spectateurs à un endroit de commun. Et alors, pour moi, elle, parce qu'il y en a beaucoup. De l'improvisation, on se permet aussi Schumann, Tchaïkovski, Chopin, des grandes envolées lyriques où cette musique virtuose, grande musique, prend le relais de la langue. En fait, c'est comme si Dostoïevski continuait à parler à travers Tchaïkovski. Et en même temps, la musique vient rassembler. C'est-à-dire qu'en même temps, elle prolonge et en même temps, elle rassemble. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre du sensible, c'est de l'ordre de la direction d'un chef d'orchestre. Ça fait vraiment partie de nous. On commence systématiquement les répétitions en apprenant un chœur, et ça donne une tonalité, un diapason. Et après, voilà, on navigue autour de ça.
Justement, sur cette tonalité lyrique, je voudrais qu'on entende un autre extrait de votre spectacle, Julien Gosselin, pour bien comprendre le rôle de dramatisation qui est à l'œuvre dans la musique, notamment pendant les longs récits des comédiens qui sont face scène.
J'appelle un taxi.
Le chauffeur du taxi, un Pakistanais, nous observa les premières minutes dans le rétroviseur, en silence. Puis il dit quelque chose dans sa langue, et le taxi passa par l'Imperial Grand Museum, par Ostrone et par Geraldine, faisant le tour du parc. Lorsque je lui ai dit qu'il s'était perdu, le chauffeur reconnut que, en effet, le labyrinthe qui était Londres était parvenu à le désorienter. Ce qui poussa de moi à dire que le chauffeur, sans vouloir, bordel de Dieu, bien sûr, avait cité Borges, qui avait une fois comparé Londres à un labyrinthe. Ce que j'ai répondu qu'il vient avant Borges, Dickens et Stevenson avaient évoqué Londres en l'usant de ce drame. C'est que selon toute apparence, le chauffeur de taxi n'était pas disposé à tolérer.
Ce qu'on entend, c'est vraiment une forme qui revient comme un leitmotiv dans votre spectacle, c'est ce crescendo à la fois parlé et musical. Est-ce que ce systématisme, c'est quelque chose que vous aviez pensé ou est-ce que ça s'est révélé par la suite, Julien Gosselin ?
Non, c'est vraiment, si vous voulez, en fait, c'est vraiment ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement pour ça que je fais des spectacles, si vous voulez. Donc, c'est difficile à dire pour moi. Disons que la demi-heure avant et la demi-heure après servent un peu à ce que ça existe, quoi. C'est vraiment, si vous voulez, j'ai pas vraiment une position intellectuelle très très intéressante là-dessus. Je peux essayer de développer une sorte de faux truc dramaturgique, mais enfin, j'adore ça, quoi. Vous voyez.
Petite question, peut-être la dernière. Qu'est-ce qu'on fait après ça, après Karamazov et 2666, Jean Bellorini?
Déjà, moi, je m'interdis. Tant que le spectacle n'est pas né, de penser à autre chose. Je n'y arrive pas, en fait. Donc je serai incapable de vous dire quoi que ce soit. En l'occurrence, je vais m'intéresser à de la musique dans pas longtemps, plus vers du côté de l'opéra. Et ça, c'est des vrais questionnements. On parlait vraiment de... Bah, au théâtre, j'aime être quelque part le compositeur de tout ça. À l'opéra, c'est exactement l'inverse. Donc peut-être que ça va être très compliqué. On va voir. En fait, j'aime mettre de la musique dans les spectacles pour qu'on puisse écouter les silences derrière. Et au même titre que quand il y a trop de silence, on les entend plus. Voilà, c'est cet équilibre que je cherche. Et bah, là, j'ai cette liberté en tant que metteur en scène au théâtre.
Julien Gosselin. Musil.
Pardon ?
Musil, je sais pas, Proust.
Ouais, non mais c'est drôle, tout le monde me parle de Musil en ce moment. Bah oui, c'est sans doute une banalité, j'en sais rien. Bah, il se trouve que j'ai toujours pas lu Musil. Donc voilà, ça je vais m'y coller pendant l'été. Et puis après, non, je reviens un peu à Houellebecq parce que ça me manque un peu.
Jean Bellorini et Camille de la Guillonnière, merci beaucoup. Karamazov, c'est ici dans la carrière Boulbon jusqu'au 22 juillet. On pourra voir ensuite le spectacle sur Arte Concert le 17. Et puis le spectacle jouera au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, dont vous êtes d'ailleurs le directeur. Julien Gosselin, 2666, c'est à la Fabrica. Puis en tournée, notamment au théâtre de l'Odéon à Paris. Restez à l'écoute. La grande table continue dans un instant avec Joël Gaillot. Mais tout de suite, on reste chez Bolaño avec un extrait de la fiction enregistrée hier soir, ici même, au musée Calvé. L'œuvre, c'est Amuleto. L'action se situe au Mexique en 1968. C'est le récit d'une jeune femme qui est enfermée dans les toilettes alors que la police envahit l'université de Mexico.
Une histoire de terreur. Ça va être une histoire policière, un récit de séries noires et d'effroi, mais ça n'en aura pas l'air. Ça n'en aura pas l'air parce que c'est moi qui raconterai. C'est moi qui parlerai et à cause de cela, ça n'en aura pas l'air. Mais au fond, c'est l'histoire d'un crime atroce. Je suis l'amie de tous les Mexicains. Je pourrais déclarer « je suis la mère de la poésie mexicaine », mais c'est mieux que je ne le dise pas. Je connais tous les poètes et tous les poètes me connaissent. Je pourrais donc le dire, je pourrais affirmer « je suis la mère » et il y a un foutu zéphyr qui court depuis des siècles, mais c'est mieux que je ne le dise pas. Je pourrais dire par exemple « j'ai connu Arturito Bellano quand il avait 17 ans et c'était un enfant timide qui écrivait du théâtre et de la poésie et qui ne savait pas boire ». Mais ce serait d'une certaine manière une redondance et on m'a enseigné, on m'a appris avec un fouet, avec une baguette en fer, que les redondances sont de trop et qu'il faut s'en tenir à l'argument. Ce que je peux dire, c'est mon nom. Je m'appelle Auxilio La Couture et je suis uruguayenne de Montevideo, même si quand les crues me montent à la tête, les crues de l'étrangeté, je dis que je suis charrua, ce qui revient au même, quoique ce ne soit pas la même chose et que cela confonde les Mexicains, donc tous les latino-américains. Mais ce qui importe, c'est qu'un jour, je suis arrivée à Mexico sans savoir vraiment pourquoi, ni dans quel but, ni comment, ni quand. Je suis arrivée à Mexico, Distrito Federal, en 1967, ou peut-être en 1965 ou 1962. Je ne me souviens déjà plus ni des dates, ni de mes pérégrinations. Tout ce que je sais, c'est que je suis arrivée au Mexique et que je n'en suis jamais repartie.
Un extrait de Amuleto de Roberto Bolaño, une fiction réalisée par Benjamin Habitant, interprétée par Maria de Medeiros et Xaba Palotay, enregistrée hier soir. Elle sera diffusée dans son intégralité le 18 septembre prochain. Tous les jours au milieu de l'émission, Joëlle Gaillot, qui est productrice à France Culture, s'entretient avec un artiste du festival OFF. Aujourd'hui, c'est Pauline Bayle. Bonjour Joëlle.
Bonjour Lucille et bonjour Pauline. Troisième éruption effectivement du OFF dans la grande fête d'été, Lucille, avec aujourd'hui cette très jeune femme. Elle a fêté ses 30 ans il y a une poignée de mois. Après des études de Sciences Po, elle a intégré le conservatoire, quelle bonne idée, où elle a suivi les cours de Nada Strancar notamment. Elle dit du théâtre qu'il ne doit pas enfoncer les portes ouvertes, mais rebattre les cartes et donner à voir le monde de demain. Et pour donner à voir le monde de demain, elle est allée du côté des anciens, puisqu'elle adapte et met en scène au théâtre de la Manufacture, et elle joue aussi parfois l'Iliade, d'après l'Iliade d'Homère. Iliade, parce que le L apostrophe a disparu, c'est quoi ? Un spectacle qui se déroule sur un plateau sans ornement, quelques chaises, un ruban blanc déroulé au sol, de la farine qu'on saupoudre sur ce sol, des vasques sur ce même sol, avec du feu qui brûle à l'intérieur, de l'obscurité, des lumières, cinq acteurs qui ressuscitent sous nos yeux les combats des Grecs et des Troyens. Et quel combat ! Le torchon brûle entre Agamemnon le Grec et Achille le Troyen. Elle dure depuis presque 10 ans, cette histoire qui verra Ulysse, Paris, Ménélas, Hélène, Andromaque, Hector, Zeus, Aphrodite et quelques autres entrer dans la sarabande. Homère a écrit une épopée folle, 15 337 vers, 24 chants qu'il a bien fallu tailler, couper, émincer pour faire entrer le tout dans un spectacle d'1h25. Si vous aviez tout joué, Pauline Bayle, vous auriez battu à plate couture et Julien Gosselin et Jean Bellorini et Angelica Lidl. Hein.
Oui. Tout à fait, mais moi j'étais contrainte de me restreindre à 1h30, mais ce qui ne m'a pas empêchée, c'est-à-dire que je n'ai pas de regrets sur l'adaptation telle qu'elle existe aujourd'hui, même si j'ai dû faire des choix.
Radicaux.
Oui, mais j'ai réussi, je crois, à préserver ce qui me tenait le plus à cœur, qui est en fait la structure qu'on trouve chez Homère, qui raconte l'histoire d'Achille et l'apprentissage d'Achille. Le mouvement qui part de sa colère et qui se termine sur sa compassion. Et cet apprentissage-là, je crois, est préservé dans l'adaptation que j'ai faite.
Quand on est un jeune metteur en scène, ce qui est votre cas, Pauline Bayle, et qu'on n'a pas trop de moyens, s'attaquer à une œuvre pareille relève du pari, et du pari complètement fou. Ce pari, il est né de quelle manière chez vous ?
Il est né parce que je crois dans le théâtre beaucoup. Je crois dans ce que le théâtre peut donner à voir du monde et que c'est pas du tout une question de quantité de moyens. Je crois beaucoup dans la langue et dans ce qu'elle peut susciter chez l'acteur et chez le spectateur et ce temps partagé entre le spectateur et l'acteur et ce qui se crée au présent. Est-ce que ça donne à voir, est-ce que ça raconte de l'humanité? Finalement, on peut faire du théâtre avec rien. Il faut un temps partagé, un espace. Ça, c'est Peter Brook qui le dit mieux que moi. Et ensuite, toute fiction, toute histoire peut se raconter.
Mais qu'est-ce qu'Homère a à dire aux citoyens du XXIe siècle?
Alors, je crois qu'Homère nous parle du courage de s'accomplir individuellement et collectivement. Au sein d'un contexte qu'aucun des personnages de l'Iliade n'a choisi. Achille n'a pas choisi de naître côté grec, Hector n'a pas choisi de naître côté troyen. Et malgré ça, ils se débattent tous les deux et ils font tout pour dépasser leurs conditions de mortels. Jamais les personnages de l'Iliade se plaignent ou rechignent à faire ce qu'ils ont à faire. Et non seulement ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils le font de leur mieux. Pour prendre en fait leur juste place dans le monde. Et ça, c'est un thème qui me parle énormément par rapport au monde dans lequel nous on vit, du courage qu'il faut pour s'accomplir, tenir et faire ce qu'on sent qu'on doit faire et ne rien lâcher. Cette intransigeance-là, cette exigence, ça résonne en moi très fort.
Mais Jean Bellorini disait tout à l'heure qu'on a besoin de nouveaux dieux, ou en tout cas qu'on a besoin de sens, est-il modéré par la suite. Vous pensez qu'il faut proposer aussi de nouveaux héros?
Alors, je crois, c'est très intéressant comme question. Je crois qu'il faut effectivement la place du héros dans la société est très importante parce que il représente un modèle en fait qu'on va choisir de suivre ou pas, mais en tout cas une sorte d'étalon. Par rapport au travail que nous on a fait, j'ai essayé d'aborder le héros à partir de l'humanité, à partir du creux en fait. C'est-à-dire c'est l'inverse d'un péplum. C'est pas du tout un héros grand, beau et fort, infaillible, qui n'a jamais peur. Au contraire, les héros d'Homère pleurent tout le temps. Ils ont tout le temps peur.
Ça vous plaît bien ça, hein?
Comment?
Ça vous plaît bien ça,
oui,
qu'il pleure tout le temps?
Mais oui, ça me plaît parce que c'est humain d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur de mourir. Enfin, on a tous peur de mourir et le fait que Achille lui-même ait peur de mourir, ça me détend beaucoup. Je me dis que c'est normal du coup. Et ensuite, ils transcendent. Ils vont au-delà de cette peur et en ça, du coup, donner à voir des héros de cette manière-là, je crois que ça peut effectivement aider à redonner du sens, à retrouver une forme de sens. Aujourd'hui.
Donc au fond, il n'y aurait ni victime ni bourreau dans cette épopée de l'Iliade, Pauline Bell?
Je crois qu'il n'y a pas de victime. Enfin, alors, je crois qu'il y a, chez les humains, il n'y a pas de victime et de bourreau. Et ça, c'est propre à l'épopée d'Homère. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout manichéen. Les Grecs ne sont pas les gentils colons et les Troyens, les méchants barbares ou l'inverse. Pas du tout. En revanche, s'il y a un clivage et s'il y a un antagonisme dans l'Iliade, pour moi, il est entre les humains et les dieux. Parce que les humains en fait se débattent et font tout pour échapper et pour s'élever en fait, alors que les dieux eux jouent un peu avec les destins des humains comme pour passer le temps. Et cette position qu'ils ont un peu de nantis, l'omnipotence qu'ils ont, ça je trouve que ça raconte un antagonisme qu'on retrouve, enfin dont je vois un écho dans la société, enfin dans le monde d'aujourd'hui. Et ça j'ai voulu le raconter. Mais chez les humains, pour moi, ils sont tous dans le même bateau et ils ont tous peur de mourir et ils font tous de leur mieux.
Et vous aussi, vous faites de votre mieux, Pauline Bell, parce que je le disais, vous avez assez peu de moyens, vous avez eu assez peu de moyens pour monter ce spectacle. Quand on a peu de moyens, on devient imaginatif, donc un peu de poudre pailletée suffit à fabriquer des armures, un peu de farine au sol suffit à composer des cercles magiques. Finalement, plus on est pauvre économiquement en étant artiste, plus on est imaginatif et moins les choses vous résistent.
Oui, alors c'est vrai que l'économie de moyens, c'est bon. De toute manière, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc voilà, ça c'était un état de fait. Mais je ne crois pas du tout que ça limite la force du récit. Et en revanche, j'avais besoin. En fait, c'est comme si au théâtre, il y a la langue, mais il y a aussi toute une multitude d'outils, donc la scénographie, qui peuvent créer des images, les sensations. C'est très sensible. C'est vraiment une expérience sensible entre le spectateur et l'acteur. Et du coup, j'ai choisi des moments du récit, des pivots dans la dramaturgie qui me semblaient essentiel et qui devait avoir une résonance visuelle et avec peu de choses en fait. Effectivement, les armes d'Achille que sa mère va lui offrir, qui ont été forgées par Héphaïstos, c'est très important chez Homère. Et du coup, je me suis dit que d'un coup, de faire intervenir des paillettes dorées, tout simplement, ça apporte du merveilleux en fait, parce que c'est des armes qui ont été forgées par un dieu. Et les paillettes, c'est magique, les paillettes, ça brille, c'est beau. Et donc, cette simplicité-là, ça permettait de raconter des choses qui étaient très importantes pour moi dans le texte original d'Homère.
Merci beaucoup, Pauline Bell. Vous retrouverez la fougue de Pauline Bell sur le plateau du Théâtre de la Manufacture. C'est Iliade, c'est à 21h20, c'est tous les jours jusqu'au 24 juillet. Ça dure 1h25.
Merci, Joël, et à demain.
Merci.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Comeau.
Bonjour Anne-Cécile Van Dalem, vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène. Depuis 2008, vous créez au sein d'une compagnie que vous avez fondée et qui s'appelle Das Fräulein Compagnie, des spectacles que vous écrivez et mettez en scène. On peut voir de vous ici à Avignon, au gymnase Aubanel Tristesse. Alors Tristesse, ça se passe sur une petite île au large du Danemark qui s'appelle Tristesse, une île quasi désertée par ses habitants depuis que les abattoirs qui ont constitué la principale activité ont été abandonnés. Au début de la pièce, on découvre un corps, celui d'Ida, pendu, enveloppé dans le drapeau danois, ce qui provoque le retour sur l'île de sa fille, Martha Eiger, dirigeante d'un parti d'extrême droite, puissant dans le pays. Extrait.
On ne peut pas la laisser là.
Martha dit qu'on ne les touche pas, alors on ne les touche pas.
Ça, c'est ma phrase. C'est ça, Martha.
Oui, c'est ça, Martha. Ça te pose un problème? Elle dirige le plus grand parti du Danemark. Alors quand on dit quelque chose, ben, je ne le discute pas.
Il y a une autorité supérieure.
Ouais, c'est ça. Il y a l'autorité de l'île aussi, et c'est moi. Essaye de devenir indépendant, et c'est toi qui vas couler.
Mais tu n'es pas tout seul à décider. Nous sommes 8 sur cette île.
7.
Il y a quelque chose du polar, il y a quelque chose des Dix Petits Nègres, du film de mort-vivant, aussi de la fable politique. Est-ce qu'il y a un événement en Europe, particulièrement, qui a déclenché l'écriture de Tristesse?
Il n'y en a pas qu'un, hélas. Il y a toute une série d'événements qui ont déclenché cette écriture. À l'origine de l'écriture, j'ai commencé à travailler ce sujet il y a 2 ans et demi. Donc il y avait déjà toute une série d'événements qui s'étaient passés, dont notamment la tuerie du Toya, dont notamment une série d'attentats. Il y avait déjà beaucoup de départs en Syrie. Et il y avait donc ce contexte de montée des populismes très très fort qui arrivaient, qui m'ont donné envie, en tout cas, de traiter ce sujet-là par le biais de la lecture que j'avais faite de la version spinoziste de Gilles Deleuze sur la tristesse, qui dit donc que la tristesse c'est la diminution de la puissance d'agir et que cette diminution de puissance s'exerce par une personne ou par une situation. Et que la haine, c'est tout ce qu'on développe à partir du moment donné où on essaie d'éliminer cet objet de tristesse. Cette vision-là m'a été très jouissive, réconfortante, et parce que je traite de l'impuissance depuis que j'ai commencé à écrire des spectacles. Mais dans le contexte de la montée des populismes, j'avais l'impression finalement que le terrain sur lequel émergeait ce populisme était finalement cette idée, ce terreau de désespérance, d'impuissance, à partir duquel on va créer donc cette idéologie qui n'en est pas une, en y ajoutant de la peur, en y ajoutant de la paranoïa. Et finalement, en fait, de me poser la question de savoir si cette fameuse diminution de puissance n'était pas à l'œuvre des idéologies ou des partis d'extrême droite.
Quand le spectacle commence, on pense vraiment à un polar nordique. Moi, j'ai pensé par exemple à Millennium. En fait, la piste générique, elle n'est jamais vraiment valide chez vous. Il y a plein de choses qui affleurent, mais c'est une forme quand même, cette forme-là du meurtre initial que vous aviez déjà mise en place dans un précédent spectacle. Ça s'appelait Self-Service en 2008, justement. C'était le premier spectacle, je crois, de votre compagnie. Est-ce que cette forme-là, celle du meurtre, le premier meurtre, elle vous permet de faire quelque chose de particulier au théâtre ? Anne-Cécile Van Dalem.
En tout cas, la mort me permet de raconter mes histoires. La mort est toujours omniprésente dans mes histoires, de manière à différents niveaux. Puisqu'ici, l'histoire commence en effet par ce meurtre. Donc, un meurtre, c'est souvent une élucidation. C'est-à-dire, il y a un mort et puis on va essayer de comprendre pourquoi il est mort. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va essayer de comprendre pourquoi il est mort, ça va entraîner notre propre mort. Maintenant, la recherche d'une forme de vérité qui ne s'inscrit pas au nom d'une vérité universelle, mais d'essayer de comprendre simplement comment les choses se sont passées, me permet en fait de raconter une histoire sans focaliser l'attention sur les personnages qui la constituent, mais à travers cette recherche de la vérité, à travers cette intrigue, finalement, c'est un prétexte à parler des personnages. Je trouve que le polar est finalement le lieu où on le fait, où les études de caractère sont les plus riches, simplement parce qu'on ne se focalise pas dessus, mais à travers cette intrigue, elle nous permet de dériver sur ces études de caractère.
Vous aviez des références en tête de polar ?
J'en ai beaucoup. Alors c'est difficile comme ça de parler d'un livre en particulier, mais c'est clair que j'ai lu beaucoup de polar nordique. Le climat nordique, le climat du polar nordique en plus est extrêmement riche justement dans ce que j'explique de cette étude de caractère, avec des caractères qui sont toujours à la fois très trempés, mais en même temps toujours dans un contexte où les choses ne se disent jamais comme elles sont, elles se formulent jamais comme elles sont, donc c'est très jouissif pour l'écriture en fait, parce que ça crée des intérieurs et des extérieurs, ce que je formalise aussi sur le plateau.
Vous interprétez vous-même Martha Heiger, c'est un personnage qui n'est jamais dans la caricature, c'est un personnage qui ne hausse pas le ton, qui est drôle parfois, qui peut montrer même une forme de douceur. En fait, on se dit qu'elle n'est pas pire que les autres personnages qui sont sur scène. Comment vous l'avez construit ?
Je l'ai construit en observant avec énormément d'inquiétude tous ces personnages de femmes qui arrivent sur la scène politique et qui endossent en fait, des rôles qui me semblent... Enfin, c'est très inquiétant de voir que ces femmes prennent ces positions. Alors, il y en a différentes. Voilà, il y a un des personnages qui m'a le plus intriguée, c'est le personnage de Frauke Petri, qui est dirigeante du parti d'extrême droite en Allemagne, qui a un visage très doux, une silhouette très fine, et qui dit des horreurs, enfin, qui est abominable. Qui n'a pas les attributs finalement masculins comme d'autres personnages, peut-être on va dire de l'autre garde féminin pourrait porter, comme justement cette dirigeante, cette ancienne dirigeante du Parti populaire au Danemark, ou comme une Angela Merkel, ou comme des personnages comme ça, de femmes qui prennent vraiment les attributs des hommes. Ici, on commence à rencontrer comme ça des femmes qui jouent sur cette carte aussi d'une féminité, et à travers cette féminité sont capables d'être pires que les hommes.
Dans ce huis clos, Martha Heiger, c'est l'autorité suprême, elle est au-dessus du prêtre, elle est au-dessus du maire du village. Est-ce que vous avez pensé à l'analogie qu'on pouvait faire entre ce personnage de leader et la figure qui est aussi la vôtre de metteur en scène ?
Bien entendu. Oui, bien entendu, puisque évidemment, la question de l'autorité, c'est une question qui est prégnante dans toute l'histoire, la différence entre l'autorité et le pouvoir. Il y a un texte qui commence au début du spectacle qui fait la différence entre le pouvoir et l'autorité. Et pour moi, puisque voilà, dans l'histoire, la propagande et la réutilisation de l'histoire de ces gens, de ces tristes, puisque ce sont les habitants de tristesse, la réutilisation de leurs récits à des fins de propagande par le moyen du cinéma est évidemment met Martha dans une position de metteur en scène, donc qui organise et qui d'un stratège et qui réutilise, qui organise les choses. Et c'est la question que je me suis posée aussi quand je fais le postulat de me dire que finalement le populisme utilise cet attristement des peuples. C'est une vision assez c'est une vision, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que c'est machiné ou que c'est conscient, c'est le regard que moi je porte. Donc c'était évident que moi, en tant que metteur en scène, je voulais porter ce rôle-là, et il y a cette mise en abîme-là qui s'effectue de fait.
On va dire un mot de la scénographie. Donc sur scène, des maisons à taille presque réelle, enfin du moins des pièces suffisamment grandes pour contenir les personnages. C'est un décor récurrent chez vous, la maison, l'habitation. C'est d'ailleurs plus qu'un décor, c'est un sujet théâtral. Vous aviez signé en 2010 une création qui s'intitulait Habituation. À quoi ressemblait cette création-là, Anne-Cécile?
Eh bien, Habituation, oui, c'était dans le cadre d'une trilogie où la maison était systématiquement le personnage central. Habituation, c'était l'histoire d'une famille dans laquelle grandissait une petite fille qui se nourrissait uniquement de la perspective de pouvoir un jour rejoindre Hammerfest, qui est une ville donc tout au nord du Danemark. Son père ayant eu un accident du travail, avait recréé une petite entreprise dans le salon, donc de découpe de saumon. Il était un peu comme ça la petite main en fait d'une entreprise chilienne qui pêche le poisson et qui le renvoie en Norvège. Et donc cette petite fille faisait ce trajet en fait de ses poissons et rêvait d'y partir jusqu'au jour où on lui dit qu'en fait elle ne partira jamais et décide par le pouvoir de sa pensée ou en tout cas par une forme de pouvoir d'emmener cette famille, d'extraire cette famille de sa maison. Et donc à partir du moment donné où elle décide de le faire, la nature envahissait complètement la maison jusqu'à les pousser en fait et les ramener à l'état premier qui était l'état de poisson. Donc ils devenaient tous des poissons.
Il y a vraiment un travail sur l'intérieur-extérieur, c'est ça qui vous intéresse. Et pour faire ce travail-là, vous avez utilisé un processus qu'utilisent vraiment décidément beaucoup de metteurs en scène cette année, qui est la caméra qui filme sur scène en direct. Là, en l'occurrence, du coup, la caméra permet de filmer ce qui se passe dans les maisons et ce qu'on ne voit pas. Il y a un vrai travail, du coup, sur le hors-champ. C'est-à-dire qu'il y a un hors-champ cinématographique. Il y a parfois la caméra qui filme un personnage et les autres ne sont pas présents à l'écran. Mais à l'inverse, il n'y a pas de hors-champ théâtral au sens où tout le monde est toujours là quasiment et il n'y a pas de manière de se défiler de la représentation. Comment vous avez pensé ce dispositif là, Anne-Cécile Vandalem?
Les personnages dans mes histoires ne sortent jamais, donc à partir du moment donné ils rentrent sur le plateau, ils n'en sortent pas. Pour moi, un plateau de jeu, c'est comme c'est un plateau de jeu avec des limites, avec des codes, et quand on en rentre on joue jusqu'au bout, et puis sachant qu'ici ils vont de toute façon tous mourir, donc ils ne sortiront pas. L'île étant un lieu justement qui par excellence me permet de raconter ça, puisque ses habitants sont complètement dépendants du bateau qui arrive ou qui n'arrive pas au port, donc ils sont coincés sur cette île. Donc voilà, en effet, l'intérieur et l'extérieur, c'est un sujet, c'est un sujet qui prête à évidemment énormément de symbolique, à énormément de métaphores, et donc c'est un sujet qui est inépuisable, que ça soit formellement, que ça soit sur ce qu'il raconte, de ce qu'on dévoile, de ce qu'on ne dévoile pas. Et donc cette scénographie pour moi s'imposait. Le cinéma, je dis le cinéma plus que la vidéo parce que j'ai pas l'impression de faire un travail vidéo, parce qu'en fait il y a aucune recherche, mais c'est délibéré. Je veux dire, j'ai pas la vidéo est projetée sur un écran. Voilà, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de recherche réelle d'utilisation du médium de la vidéo. Par contre, le langage cinématographique est pour moi est vraiment un prolongement de mon histoire. C'est-à-dire, il m'aide, il me donne la possibilité d'aller plus loin ou de raconter mon histoire au-delà de ce que le plateau me permet.
Alors moi, j'ai vu le spectacle hier, il y a eu un incident dans la salle au milieu du spectacle, les gens riaient beaucoup, surtout du côté où j'étais, et au moment où il s'agissait de décrocher le cordida, donc qui est pendu dans son drapeau, un monsieur s'est insurgé en criant vraiment contre ceux qui riaient, en disant « arrêtez de rire, ce n'est pas drôle ». Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose ça racontait quelque chose de votre rapport à l'humour dans cette pièce-là.
Ah oui, il y a des gens qui sortent en me disant qu'ils ont ri pendant 2 heures, et il y a des gens qui sortent en me disant « mais moi, j'ai pas du tout ri ». Oui. Et alors ça, c'est quelque chose que je connais parce que c'est un peu inhérent à tous mes spectacles. Je pense que le rire, il faut porter la responsabilité de ce rire, parce qu'on rit des gens qui se cassent la figure, on rit de la bêtise des gens, on rit de l'horreur, on rit d'une situation d'humiliation. On ne rit jamais finalement que de la diminution de la puissance qui est exercée. Donc on rit, alors il faut l'assumer. Alors il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Moi, si je vois quelqu'un se casser la figure, je vais rire. Je vais commencer par rire et après je vais m'excuser. Mais c'est le choc d'un moment donné d'une situation qui... Donc je comprends très bien les gens qui rient, mais je comprends tout à fait aussi les gens qui ne rient pas. C'est assez impressionnant parce que ici, donc là on l'a joué en Belgique avant de venir ici. Ici, en Belgique, souvent, il y a quand même un moment donné de rupture. Enfin, je dis en Belgique, on verra ailleurs aussi, je ne fais pas des catégories, mais il y a quand même un moment donné où le spectacle bascule et où on ne rit plus. Ici, c'est assez impressionnant parce que les gens, il y a des gens qui rient jusqu'à la dernière minute, mais jusqu'au moment où on explique finalement que le parti a récupéré cette histoire et que Martha Heger est devenue réellement Premier ministre du pays. Donc c'est complètement tragique, c'est horrible ce qui se raconte. Et voilà. Mais après, c'était... Oui, je l'ai entendu, j'étais sur scène au moment où c'est arrivé. C'était assez surprenant, mais c'est pas étonnant.
Au cœur du spectacle, il y a une longue séquence, c'est peut-être le cœur vraiment du spectacle, la longue séquence des funérailles dans l'église. C'est long, c'est comme un plan séquence en fait au cinéma. Et j'ai beaucoup pensé à une autre séquence, une séquence de messe dans la série de Bruno Dumont qui s'appelle Petit Quinquin. Vous l'avez vu?
Non.
C'est étonnant parce que c'est vraiment très très semblable.
Ça fait un moment que je veux voir cette série, mais non, je ne l'ai pas encore vue, non.
En tout cas, la cérémonie, c'est vraiment une forme qui vous intéresse. Vous aviez déjà mis en scène une veillée funéraire dans Self-Service. Est-ce que pour vous, c'est le dispositif théâtral par excellence, Anne-Cécile Vandalem?
La cérémonie ou la veillée funéraire?
Les deux.
Bah, la cérémonie, oui. Ben, c'est sûr que quand moi, j'ai pas de formation d'écriture, donc j'utilise un peu des ressorts qui sont évidents, comme par exemple l'intrigue ou comme la cérémonie. Mais dans Habituation, c'était un anniversaire. Dans Célégretel, c'était un mariage. C'est-à-dire que la cérémonie cristallise toute une série de choses. Il y a une forme de liturgie qui est écrite, déjà où j'ai moi une espèce de cadre. Après la cérémonie funéraire, je savais que dans Tristesse, je voulais une longue scène de funérailles. Assez étonnamment, c'est la seule que j'ai pas été capable d'écrire. Donc j'écris toutes mes histoires et on commence aux répétitions avec un texte et des dialogues qui sont écrits. Et jusqu'à la première lecture, le premier jour de travail, cette scène n'était pas écrite. Donc c'était la scène de funérailles en cours. Et je n'ai jamais réussi à l'écrire. Et pourtant, je savais que c'était une scène qui était clé, parce que c'est une scène qui cristallise énormément de choses, tant au niveau de l'intrigue qu'au niveau des personnages, qu'au niveau du rapport de la mort, puisque en fait il s'agit à la fois dans cette scène de eux de réhabiter un rite, puisque c'est une communauté qui n'est plus organisée autour de rien et qui n'a plus rien, enfin ils n'ont plus de morts à enterrer, ils n'ont plus de gens à marier, donc ils n'ont plus de raison d'aller dans cette église, donc il faut réactiver le rite. Par ce pauvre pasteur qui ne sait plus très bien comment faire. Et en même temps, on a cette morte qui est là au milieu, qui va s'agir de faire revivre en donnant ses hommages. Enfin, chacun vient faire un hommage et en faisant son hommage, chacun amène un petit bout de la morte et la reconstitue. Donc cette morte prend une puissance très forte que Martha, évidemment, va se charger de démolir illico dans son discours après. En couronnant donc la plus grande adolescente en la montant en symbole et en nouveau visage de son parti.
Un grand merci à vous, Anne-Cécile Van Dalem. Tristesse se joue jusqu'au 14 juillet ici à Avignon, ce soir dans la cour du Musée Calvé où nous sommes de 20h à minuit. Une nocturne spéciale Bolaño à laquelle vous êtes tous conviés. Ne manquez pas également à 17h en direct et en public des rencontres de Pétrarque à Montpellier, un débat intitulé Interroger la France et ses valeurs. Quant à nous, on se retrouve demain toujours en direct et en public du Musée Calvé à Avignon avec trois artistes, Arnaud Meunier, Thierry Thieu-Nang et Madeleine Louarn. La Grande Table d'été est une émission préparée par Aïssa Touendoy, Anne-Catherine Lochard, Anna Baron, Lila Bozès, Lucide Pertu et Boris Pinault qui est ici avec moi à Avignon. À la réalisation Peyré Legras, équipe technique Jean-Michel Coqui, Benjamin Thuot, Bastien Varigo et David Aléas, chargée de production Sandrine Bréchaud. Vous pouvez comme toujours retrouver l'émission sur le site de France Culture et la télécharger et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux.